Jean-Pierre Essrand. Architecture, urbanisme, territoire et cadre de vie. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de territoire, qui fait partie de l'indicatif de cette émission, et un sujet qui est un peu complexe et qui apparaît comme un paradoxe ou un oxymore. Il s'agit de la mondialisation, mais une mondialisation identitaire, ce qui apparaît à première vue comme contradictoire. En fait, je vous parle depuis l'Oustal Occitania d'une radio web, vous voyez déjà le paradoxe, à Toulouse en Occitanie, et très récemment dans cette ville, il y a eu l'inauguration des Ramblas. Alors les Ramblas, c'est un mot espagnol par un architecte catalan espagnol, et le mot Ramblas n'est pas catalan, et qui refait avec bonheur, puisqu'il s'agit de revenir à une vision plus douce de la ville, les allées Jean Jaurès. Et les allées Jean Jaurès, comme vous le savez ou vous entendez quand vous prenez le métro, c'est Estación Jean Jaurès, dans cette langue occitane que je ne parle pas, même si je comprends quelques mots. Et en même temps, il y a l'inauguration d'un bâtiment qui est près de la place Saint-Pierre, qui est Toulouse School of Economics, en anglais, et fait par pas par un architecte catalan, mais par des architectes écossais, et d'ailleurs une architecture de qualité, et on pourrait dire même très occitane, en tout cas dans sa massivité et dans l'utilisation de la brique. Donc on voit ce paradoxe aujourd'hui où on a ce mélange des cultures et en même temps un revivalisme de ces identités. Alors le mot identité est un mot qui est chargé de passion dans notre pays. C'est pas le cas partout ailleurs. Donc, je ne rentre pas dans un débat de passion, mais je vais essayer d'expliquer le mieux que je peux l'origine, ou du moins les l'origine et les conséquences de cette double articulation entre les territoires, les identités et la mondialisation. Alors, la première des choses dans ce retour des identités que l'on retrouve à travers les nationalismes, ce qui est communément dit, il s'agit d'une réaction à la mondialisation. C'est-à-dire, d'un côté, on aurait la mondialisation qui serait un mouvement tendant à unifier la culture, et puis on aurait une réaction des peuples contre cette mondialisation. Alors ça, c'est ce qui est dit. Mais la chose est un peu plus complexe que cela. D'abord, sur un plan historique, rappelons-nous que le 19e siècle, c'est justement à ce moment-là que se fait, on peut dire, le début de cette mondialisation. En effet, cette mondialisation, elle est faite de mobilité par les nouveaux moyens de communication de personnes, par le moyen de communication des biens. C'est d'abord, on le sait, le chemin de fer, puis la voiture, puis l'avion, les bateaux également qui sont motorisés, et c'est un phénomène qui change totalement les économies du monde. Donc c'est un phénomène qui n'est pas récent. Alors en même temps d'ailleurs, il y a les réseaux. C'est le début du télégraphe qui va devenir téléphone, radio, et ensuite on aura télévision, internet aujourd'hui. En fait, il s'agit d'une continuité d'un phénomène qui est apparu au 19e siècle. Et à ce moment-là, au 19e siècle, apparaît en même temps on peut dire la création des États-nations et ces notions d'identité. on construit des histoires nationales. En France, par exemple, on construit le mythe de Vercingétorix, Charlemagne, et tous les pays vont avoir des récits nationaux. En même temps, on a aussi les mêmes choses qui se passent en province, où on a des identités, des folklores qui ressurgissent en même temps que ce phénomène-là. Et ce n'est pas en opposition, mais c'est mon explication en tout cas, il s'agit du même phénomène. C'est-à-dire que quand on circule et quand on se déplace, on a besoin justement de retrouver son identité. C'est-à-dire que le mouvement est lié à ce moment identitaire. Donc, cette illusion que tout va se ressembler, et bien sûr, elle est fausse, parce que justement, quand on se déplace, c'est à ce moment-là qu'on comprend qui on est, ce qui n'est pas le cas quand on ne se déplace pas, puisqu'en fait, on voit les autres, mais les autres, on peut les penser comme soi-même, ou ami, ennemi, peu importe, mais en tout cas, il n'y avait pas ces tensions identitaires, puisqu'en fait, on pouvait dire que on était à peu près chacun chez soi. Donc, c'est un phénomène qui est récurrent dans l'histoire, par exemple des continents entiers comme l'Asie, comme l'Afrique notamment, où on a des cultures diverses et des peuples, et on a aussi des continuités avec des déplacements dans cet immense continent, et c'est fascinant de voir justement à la fois la cohabitation entre des identités de continentales et en même temps de voir les diversités en art, en langue, en coutume à travers ces peuples. Donc en fait, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, et notamment, je tiens à le rappeler, c'est ce 19e siècle. Alors aussi, il y a quelque chose qui, évidemment, nous concerne dans cette chronique, c'est l'invention des architectures régionales. Alors, les architectures régionales qui apparaissent au 19e siècle, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, sont caractérisées par une sorte de négation de l'architecture universelle et mondiale qui prévalait avant. Soyons clairs, l'architecture classique, par exemple, est un vocabulaire qui est utilisé, évidemment, dans le bassin méditerranéen, de l'architecture grecque, l'architecture romaine, qui ensuite va reprendre au moment du Moyen-Âge sous une forme un peu déformée et va renaître à la Renaissance et à l'âge classique, qui sera le grand siècle de notre pays. Et jusqu'au 19e siècle, où on continuera à avoir aussi cette architecture classique, et il ne faudra attendre que le mouvement moderne de l'après-guerre de 14 quasiment pour avoir une expression esthétique différente. Et on peut dire que cette architecture classique fait de composition des ordres de colonnes, de rapports de proportions, et deviendra un mode universel qu'on va retrouver sous la forme coloniale aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc., à peu près dans le monde entier. Donc, la création l'invention régionale, à mon sens, est quelque chose qui est totalement idéologique, parce que un pays comme la France a des grandes différences entre les régions, mais ces différences entre régions, elles tiennent plus au paysage, à l'histoire, elles tiennent plus à des caractéristiques économiques qui vont produire des architectures. Prenons un exemple, par exemple, l'architecture basque qui a produit toutes ces villas balnéaires au XXe siècle. Et en fait, il s'agit de modèles de bergerie qui étaient totalement fonctionnels, qui utilisaient les matériaux de l'époque et qui avaient des fonctions fonctionnelles où on avait les habitations au-dessus de la bergerie. Et puis, cela a fait toutes les maisons que l'on a retrouvées avec des faux pans de bois en béton et la même forme, évidemment, qui n'avait rien à voir avec l'original. Alors, on peut appliquer cela à peu près dans toutes les régions. Et on a aussi ce qu'on peut appeler des architectures régionales, c'est-à-dire c'est l'architecture d'une époque. Par exemple, Toulouse est une ville qui a été construite en briques essentiellement après le grand incendie, même si la ville romaine utilisait la brique parce que c'était un matériau accessible facilement avec l'argile du territoire. Mais on peut dire que les constructions en briques toulousaines, ça marque surtout une époque qui a été la grandeur de la Renaissance toulousaine. Par rapport à une ville comme Bordeaux, par exemple, où on est plus à la Renaissance, mais on est dans le 18e et dans le 19e siècle, et on a effectivement une ville classique. Donc, ce qu'on appelle la plupart du temps des architectures régionales sont soit des architectures vernaculaires, soit des architectures qui sont liées à l'histoire. Donc, c'est assez important parce que ce problème identitaire, et on a par exemple la création identitaire de l'Espagne, en Espagne de la Catalogne, qui est construite à peu près sur les mêmes fictions, à la fois linguistiques, que l'on a pu avoir avec les langues régionales, où on a repris des langues vernaculaires et on les a codifiées et par cette nécessité. Donc, n'entrons pas dans un débat passionné, mais nous faisons simplement que constater une chose. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Ravel. Et Ravel illustre bien cette transition à la fois de l'architecture classique et puis les influences du jazz de mondialisation. Alors nous allons revenir dans le présent, en France, et avec, on peut dire, la morosité ambiante, et à travers différents ouvrages qui ont été publiés récemment, à peu près sur la même thématique. Par exemple, Marcel Gauchet a publié « Comprendre le malheur français », Hervé Lebras, le démographe, « Se sentir mal dans ma France qui va bien », et Denis Oliven, « Le délicieux malheur français », et puis aussi un livre qui a pas mal de succès, qui est « L'archipel français » de Jérôme Fourquet, « Naissance d'une nation multiple et divisée ». Alors, le propos est de voir, je ne vais pas évidemment donner 36 explications sur ce problème complexe, mais je vais donner ma vision qui serait que notre pays est mal dans son époque parce qu'il l'a, c'est pas qu'il ne la comprend mal, mais parce qu'il ne la voit pas bien, ce qui est quelque chose de différent. Alors je vais prendre un exemple. Dans le Libération de mardi, il y avait un article d'un monsieur Jean Laterrasse, qui est professeur du labo Ville, Mobilité, Transport universitaire. Et l'article dans les feuilles idées de Libération, c'est la double peine de ceux qui habitent loin. C'est-à-dire qu'en fait, on fait toujours, et j'en ai déjà parlé pour ceux qui m'écoutent, dans la mobilité, la France est uniquement un pays de ville et il y a autour de ces villes une France périphérique qui va mal, qui produit les gilets jaunes, qui produit les grèves et tout le monde est à analyser, ausculter, donner des médicaments par rapport à cela et sachant que l'avenir est dans nos villes, nos villes ont la croissance, ont l'économie et il ne s'agit pas d'un débat d'idées, il s'agit de données qui sont fausses. C'est une réalité qui est fausse. Donc, pour revenir à ce monsieur qui s'appelle Laterrasse, il a des solutions, et ça me navre de voir un universitaire qui publie des choses pareilles. Il propose, pour sortir des soi-disant problèmes du logement français, que les classes modestes et les classes moyennes viennent habiter dans les villes-centres, dans ce qu'il appelle aussi les noyaux urbains. Il faut savoir que dans la plupart des villes, sauf Paris, qui a 2 millions d'habitants dans le centre, les villes, on font 2 km² de surface que les écologistes veulent y faire rentrer la nature et aussi les politiques, évidemment, sous la pression des experts qui apparemment savent tout, veulent faire rentrer toute la croissance et pour loger les gens. Bon, il s'agit de quelque chose qui est totalement absurde, sachant que la France est un immense pays rural avec des territoires naturels, des territoires et donc ceci n'a aucun sens. Alors revenons justement à la vision de cette France périphérique qui apparaît comme son nom l'indique, périphérique, quelque chose qui est secondaire par rapport à ces centres-villes. Alors, il faut savoir que cette France périphérique elle représente quand même 95% de la population française contre 5% qui habitent dans les centres-villes. Donc, la périphérie de 5%, 95%, déjà, c'est un peu rigolo comme histoire. Donc, à partir de cette fausse donnée et de penser que l'économie n'est pas dans les périphéries, elle est dans les centres-villes, alors effectivement, on est dans l'erreur totale. Alors, c'est vrai que nous avons une tradition politique française où nous avons, pour des raisons historiques, nous avons sédimenté le pouvoir politique dans les grandes villes et surtout dans Paris. Nous avons également l'université et les grandes écoles qui sont dans les centres-villes. Et phénomène aussi fâcheux, à mon sens, c'est la concentration des médias qui sont à Paris et qui font que les médias parlent de là où ils sont, ils parlent du centre de Paris, et ce centre de Paris, à travers les médias, devient la France entière, ce qui est quelque chose totalement inconcevable dans aucun pays au monde, de penser que tout peut se résumer aux quelques kilomètres carrés autour des radios et des télévisions et des journaux parisiens qui sont les journaux et les télévisions et les radios nationales. Alors, il est évident que quand on a une lecture aussi fausse, c'est-à-dire cette différenciation entre justement cette petite, or je ne sais pas si on peut dire élite, en tout cas cette faible population qui habite les villes, et dans ce livre qui a eu un très grand succès, qui s'appelle « La France périphérique » de Christophe Guillouis, on a, d'une manière récurrente, répétée, les gagnants de la mondialisation, qui sont les habitants des grandes villes, et les perdants de la mondialisation, qui sont ceux de la banlieue, entre guillemets, et de la périphérie rurale. J'écoutais l'autre jour, sur une radio, je crois que c'était Europe 1, où on parlait de bicyclettes électriques. Et c'était Simon Sini qui a une société qui disait que de toute façon le futur c'était les déplacements en vélo, qu'on n'aurait plus besoin de se déplacer autrement. Alors la journaliste a essayé de faire un peu la contradiction, elle a dit mais comment fait-on dans les villages de Corrèze? C'est-à-dire qu'en fait il y a Paris et puis les villages de Corrèze. C'est quand même une vision totalement sidérante de la France, et si on le prend à l'envers, on peut se demander... Dans cette France qui est la France réelle, et qui n'est pas la France périphérique, quand on l'appelle la France des territoires, c'était l'intitulé de mon discours, mais le territoire, c'est la France et les provinces, c'est la France tout court. Et ce qui est totalement incongru, que cette France-là a une vision d'elle-même à travers les médias qui est une vision négative. Et ça, c'est un phénomène nouveau. Parce que avant, les villes et les campagnes, les petites villes, les villes moyennes, bien, il n'y avait pas une sorte d'envie délirante d'habiter Paris ou d'habiter la ville. D'ailleurs, je pense que cette envie n'existe pas vraiment non plus quand on voit que, en fait, les centres-villes se vident et que on a, et ça, c'est des données totalement officielles et qui ne sont pas à discuter, on a une répartition de la croissance de la population justement dans cette périphérie. Et donc, on n'a pas forcément une périphérie qui est faite de gens qui sont en douleur et qui sont marginalisés. Mais par contre, cette image, effectivement, elle est donnée d'une manière négative. Et j'étais en train de vous dire, ce n'était pas le cas avant. Avant, les gens de la ville et les gens de la campagne, on peut dire, ou de gens de la province, bon, on avait un rapport, on peut dire, moqueur par rapport aux Parisiens. Et même si les Parisiens avaient le rapport inverse, on n'avait pas... le rapport entre la ville et la campagne était, on peut dire, un rapport de cohabitation, mais c'était pas cette vision de la France périphérique. Il faut dire aussi que après la guerre, par exemple, ce sentiment n'existait pas parce que les gens des villes françaises, on peut dire de toutes les villes françaises, ont beaucoup souffert pendant l'occupation du fait du rationnement, du fait des cartes que les gens des campagnes n'avaient pas, et les gens il y a une solidarité importante familiale qui fait que les campagnes ont nourri les villes avec le troc, le marché noir et ces solidarités d'amitié. De familles qui ont permis à beaucoup de gens de survivre dans ces années qui ont été très douloureuses pour notre pays. Donc je pense que cette France de l'après-guerre n'avait pas cette coupure-là, puisqu'il y avait aussi fraîchement, jusqu'on peut dire jusqu'aux années 75, des gens qui allaient de la campagne vers la ville, et maintenant le phénomène s'est inversé. Donc, pour arriver au cœur de mon propos, je pense qu'une grande part du malaise français d'aujourd'hui, même si les personnes que j'ai citées sont des gens tout à fait honorables et ont des visions tout à fait intéressantes, je pense qu'on oublie de dire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a une vision totalement fausse de notre pays et on a un rapport de population et on a donné à cette France périphérique qui n'existe pas un dolorisme et une sorte quelque part de mépris par une sorte de, on peut dire, de commisération qui est malheureuse. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Merci à Hugo qui officie à la technique. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site d'Esprit Occitanie et sur l'application Smartphone. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Même jour, même heure, pour un nouveau numéro de « Où vivrons-nous demain ?»